Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Votre épée est-elle aiguisée? Ma question peut vous paraître étrange, mais elle est, je vous l'assure, biblique et légitime. En effet, l'apôtre Paul, à deux reprises, parle de notre épée chrétienne dans les Écritures. Mais de quoi voulait-il parler? Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous allons nous reporter à Hébreux chapitre 4 et le verset 12 pour commencer. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est clairement question ici d'une analogie. Paul ne dit pas que la Bible, qui est la parole de Dieu, est une épée ordinaire, faite pour tuer, mais une épée spirituelle, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Paul utilise de nouveau cette puissante analogie dans son épître aux Éphésiens, quand il dit aux membres de l'Église de Dieu à Éphèse de revêtir toutes les armes spirituelles dont ils ont besoin pour vaincre et croître spirituellement, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6 et le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et donc, question à nouveau de cette épée. Je ne crois pas me tromper en disant que la plupart d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, en ce jour de sabbat, vous avez en main cette épée, la Bible, la parole de Dieu. Mais votre épée est-elle aiguisée? Autrement dit, la Bible dont vous vous servez est-elle une bonne Bible? Une bonne épée, une épée fiable, la meilleure épée ou Bible française que vous puissiez étudier? Nous nous servons généralement d'une version de Louis II, dans nos messages et dans nos écrits, car c'est une des versions dites des réformateurs, étant dans ce sens meilleure que d'autres nettement plus tendancieuses et moins fidèles aux originaux. Mais cette version n'est pas parfaite, et nous citons d'autres versions quand ces dernières collent davantage au texte. Nous vous conseillons aussi généralement de vérifier le plus souvent possible plusieurs versions, et de les comparer. Mais à quelle autre version les comparer? Paul se servait d'une analogie quand il comparait la Bible à une épée vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, qui juge les sentiments et les pensées du cœur, et qui est l'épée de l'esprit. Et je reprends son analogie en vous demandant aujourd'hui si votre épée est bien aiguisée ou affûtée. Il importe en effet que nous connaissions bien les outils spirituels dont nous nous servons et que nous sachions quelles sont leurs faiblesses éventuelles. Aucune version de la Bible n'est parfaite et nos versions françaises ne font pas exception à la règle. Nous prêchons, comme le dit la Bible, et plus précisément Paul dans 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 16, que toute l'Écriture est inspirée, littéralement insufflée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans sa version originale. C'est là un détail important. Dans sa version originale. Nos versions françaises sont relativement fidèles aux originaux, mais certaines sont plus fidèles que d'autres, et plusieurs sont mauvaises. Il importe que nous sachions quelles sont les versions françaises qui sont les plus fidèles aux originaux. Pour cela, nous devons savoir qu'il existe essentiellement deux groupements de manuscrits utilisés pour la traduction de nos versions modernes. Premièrement, il y a le texte dit reçu, le texte reçu dit aussi majoritaire, et deuxièmement, le texte critique ou minoritaire. Il y a donc deux grandes familles de manuscrits grecs du Nouveau Testament, et je parle surtout aujourd'hui du Nouveau Testament. Premièrement, le texte majoritaire byzantin. La majorité des manuscrits grecs du Nouveau Testament, 80% environ. C'est ce texte qui a été compilé par Erasme, dont nous tenons le texte reçu, et utilisé par les réformateurs et dont les protestants jusqu'au début du XXe siècle, c'est ce qu'ils utilisaient. Les textes majoritaires sont appelés comme cela car on en a retrouvé une grande quantité. Que ce soit des écrits entiers, des extraits de versets, ou dans les livres des pères de l'Église catholique, qui reprenaient souvent une grande partie des livres bibliques. C'est la source la plus fiable pour le Nouveau Testament, car près de 80% de ces textes correspondent entre eux, ils sont identiques entre eux. Et il y en a au moins 6000, ce qui est considérable. Nous avons beaucoup de manuscrits, plus de 6000. Ensuite, il y a le texte dit minoritaire, alexandrin, aussi appelé le texte de Westcott et Hort. Les textes minoritaires sont appelés ainsi car on en a retrouvé peu de fragments. Cela devrait déjà nous indiquer quelque chose. Ces quelques textes datent des 5 premiers siècles et on a aussi découvert 2 codex, le codex Vaticanus, parce qu'il provient du Vatican, dans les années 1500, et le codex Sinaiticus, qui a été découvert au XIXe siècle au monastère Sainte-Catherine, situé au pied du prétendu mont Sinaï. Je dis prétendu, parce que d'après Paul et l'Épître aux Galates et un nombre croissant d'experts modernes, le vrai Sinaï se trouve en Arabie. Et ces 2 codex ont été retrouvés en très bon état. Ah, c'est intéressant, en très bon état, ce qui nous fait douter de leur authenticité et de leur ancienneté, car un tel âge implique forcément une certaine dégradation et le passage du temps, ce qui ne se remarque pas dans ces artefacts. La plupart des versions modernes de la Bible se basent sur ce texte dit minoritaire, dit alexandrin. Mot tiré de la ville d'Alexandrie en Égypte. Les différences entre les textes grecs du Nouveau Testament sont relativement mineures et n'affectent pas le sens des versets ni la doctrine. Le texte byzantin comporte ce que les experts appellent des répétitions. Mais Dieu a placé ces répétitions, notamment dans les évangiles synoptiques, qui sont Matthieu, Marc et Luc, pour une raison précise. Dieu répète souvent les choses dans sa parole parce que nous avons la mémoire courte. Et si, par exemple, on ne lit que l'évangile de Marc sans lire les passages parallèles dans les autres évangiles, il nous manque quelque chose. Des informations que Dieu estime aussi importantes pour nous. Les spécialistes de l'analyse textuelle pensent que la version originale est la plus sobre. Et il coupe les répétitions, favorisant le texte alexandrin, qui, lui, s'est débarrassé de ses répétitions. Or, aucun homme n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la Bible. La parole de Dieu est sacrée et complète. En fait, dans plusieurs domaines, le texte majoritaire comporte des leçons ou des précisions importantes. Parfois absente du texte alexandrin ou égyptien. Le texte byzantin ou de Byzance ou d'Istanbul ou de Constantinople en Turquie est, lui, le texte de l'immense majorité des manuscrits et c'est celui qui a été le plus utilisé dans l'Église primitive et lors de la Réforme. C'est le texte byzantin qui a été transmis par Le Monde de langue grecque. Alexandrie, en Égypte, était par ailleurs en proie à des courants quelque peu mystiques ou gnostiques. Et le manque de rigueur face à ces influences se ressent dans les écrits d'Origène, de Clément d'Alexandrie ou de Cyrille d'Alexandrie. Le texte byzantin occupe donc un rôle central et son abandon dans les versions modernes est à déplorer. Les Bibles modernes sont basées sur le texte minoritaire, alexandrin, à l'exception de quelques Bibles surnommées authentiques, qui suivent le texte masorétique hébreu pour l'Ancien Testament, ainsi que le texte reçu grec pour le Nouveau Testament, dit aussi le texte majoritaire. Pour nous, il est important de nous souvenir majoritaire. Nous voulons chercher ce qui est majoritaire. Et le minoritaire ne nous intéresse pas. C'est facile à souvenir. Majoritaire, majorité, bon, c'est ce qui compte le plus pour nous. Et le texte minoritaire, il y a beaucoup moins de manuscrits. Eh bien, nous devons laisser cela de côté. Et j'espère que je vais pouvoir vous expliquer cela plus en détail. Et la lecture d'une version basée sur le texte byzantin est donc importante pour pouvoir bénéficier de détails importants qui ne se trouvent pas dans le texte alexandrin. Les Bibles françaises les plus fidèles aux originaux, étant basées sur le texte byzantin, sont la Bible Martin, la Bible d'Olivetan, la Bible de Genève, de 1669, un peu vieille, 1669, mais fidèle, la Bible de l'Épée, la Bible Osterval, que nous citons encore assez souvent, puis la Bible King James française. Et le français est parfois un peu vieillot dans ses versions, mais elles sont plus fidèles. Ces Bibles sont basées sur le texte reçu. À nouveau, pour nous, nous devons nous souvenir, c'est reçu, c'est ce que nous voulons, le texte reçu. Le texte reçu du grand érudit Erasme de Rotterdam, qui érigea de véritables forteresses pour protéger le texte majoritaire des agressions réformistes et des fureurs des élateurs de Rome. Erasme était un génie intellectuel du XVIe siècle de la Renaissance, et on a dit à propos de lui, Erasme pondit l'œuf et Luther le fit éclore. Allusion est en fait ici à son retour aux sources pour les Écritures et à l'impact qu'il eut sur Luther, dont il finit d'ailleurs par se dissocier, parce que Luther alla dans une certaine direction, il essaya d'effectuer certaines réformes, mais il n'alla pas jusqu'au bout, comme nous le savons. Erasme collectait et comprenait une multitude de manuscrits, en plus d'écrire et de publier tellement de livres que l'Europe fut ébranlée lorsqu'il exposa l'ignorance des moines, les superstitions de la prêtrise, la bigoterie et la maladie infantile de la religion catholique. Il fit la classification des manuscrits grecs et s'occupait à lire les œuvres des prétendus pères de l'Église chrétienne. Grâce à Erasme, et en dépit d'une forte opposition de la part de ceux qui ne souhaitaient pas conserver les œuvres les plus proches des originaux, le Nouveau Testament fut publié dans sa langue originale en 1516. Erasme scruta des centaines de manuscrits, mais en utilisa seulement quelques-uns dans sa rédaction du Nouveau Testament grec. La raison pour ceci est que la grande majorité des manuscrits grecs représentent tous un même texte, avec quelques différences superficielles. Ce qui est notoire, c'est que les manuscrits qu'il choisit portaient un texte d'une histoire éminente dans les églises grecques, syriennes, et vaudoises, ce qui constituait un argument irrésistible en faveur de la providence de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur d'une centaine de Bibles différentes, mais d'une seule. Les autres ne sont que des approximations. Autrement dit, le Nouveau Testament grec d'Erasme, nommé le texte reçu, est le même que celui qui fut victorieux contre la rage et la haine de ses ennemis païens et papaux. La Bible Second n'est pas la meilleure Bible. je vous surprends peut-être en disant cela, nous la citons plus souvent parce que c'est celle que les protestants francophones et une grande partie de nos lecteurs utilisent le plus souvent. Mais elle n'est pas la meilleure version. Elle s'appuie sur le texte critique et non sur le texte reçu, sur le texte minoritaire et non sur le texte majoritaire. Il importe que nous sachions cela. La nouvelle Bible Second représente la première des Bibles modernes. Comme d'autres Bibles modernes, il y en a d'autres. Il y a par exemple la Bible du Sommeur, Bible moderne, je parle des Bibles modernes, donc ces Bibles qui sont basées sur le texte minoritaire. Alors rappelez-vous, majoritaire, minoritaire. Majoritaire, c'est ce que nous voulons, minoritaire, nous laissons. Alors, ces Bibles modernes sont basées sur le texte critique ou minoritaire. Il s'agit de la Bible du Semeur, la nouvelle édition de Genève, la Bible à la Colombe, la Bible Darby, la Bible en français courant, la TOB, ou traduction œcuménique de la Bible, la Bible Jérusalem et la Bible Crampon. Et j'en passe, il y en a d'autres. Mais voilà, donc des Bibles modernes. Il est vrai que certaines versions modernes tiennent compte des leçons du texte majoritaire, en particulier la nouvelle Second 21, la nouvelle Second du 21e siècle, mais elles comportent néanmoins toujours des erreurs notoires. La Second du 21e siècle a repris notamment le mot « enfer », qu'elle avait remplacé par « GN » dans les versions précédentes, comme celle de 1979. Et à chaque fois, par exemple, quand vous avez Matthieu 5, 22 et 29 et 30, où il était question de la GN dans une édition antérieure, maintenant ils ont remis le mot « enfer ». Même chose pour Matthieu 10, 28. Même chose pour Matthieu 18, 9. Même chose pour Matthieu 23, 15 et 33. Et même chose pour Jacques chapitre 3 verset 6. Je ne fais que citer certains passages. Si vous avez une concordance, vous pouvez vérifier le mot GN ou le mot enfer et vous allez trouver que dans cette version du 21e siècle, ils ont remis enfer. Donc c'est mal traduit de nouveau. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde une nouvelle Bible, je regarde déjà le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Et à nouveau, il semble qu'il change, à chaque fois qu'il y a une nouvelle impression, une nouvelle édition, il change. Alors, au fil des années, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et les cieux et la terre, le ciel et la terre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et cette nouvelle version est revenue à le ciel et la terre, ce qui n'est pas dans l'original. Dans l'original, c'est les cieux, pluriel, et la terre. Ce qui est important, c'est un détail important. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous regardez une Bible qui déjà, avec le premier verset, a une erreur, ça ne m'inspire pas tellement confiance. Après, vous avez aussi dans Apocalypse 22, 14, Apocalypse 22, 14, on a cité ce verset plusieurs fois, mais... Il se garde bien aussi dans cette nouvelle version de changer, comme c'était dans le texte reçu. Dans le texte reçu, il est question de « heureux ceux qui observent les commandements » au lieu de « heureux ceux qui lavent leur robe ».« Heureux ceux qui lavent leur robe », c'est bien différent de ce qu'il y a dans le texte reçu, le texte majoritaire, où il est écrit « Heureux ceux qui observent les commandements ». Mais comme vous pouvez le savoir, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas penser à l'observation des commandements. Dans cette version seconde du 21e siècle, vous avez souvent des ajouts entre crochets. Il s'agit généralement de ce qui est dans le texte reçu et qui a été enlevé dans des versions antérieures de la seconde. Et il est dit dans les premières pages de cette édition, j'ai vérifié, dans la section expliquant les symboles qu'ils utilisent dans cette nouvelle version, lorsqu'il est question des crochets, voici ce qu'ils disent. « Signale que le mot ou le passage ainsi encadré est absent de certains manuscrits jugés importants. » Intéressant, n'est-ce pas ?« Signale que le mot ou le passage ainsi encadré est absent de certains manuscrits jugés importants. » Jugés importants ? Pour qui ? Pour eux. car il se base sur le texte minoritaire ou texte critique de Westcott et Hort, et non sur le texte reçu. Et c'est plutôt malhonnête, car les gens lisent des mots entre crochets, et quand ils voient des mots entre crochets, ils pensent que ce n'est pas dans l'original, alors que c'est dans l'original. Je répète que les versions françaises modernes de la Bible sont basées sur le texte alexandrin. Quand on se souvient que l'Égypte n'a jamais été tendre avec le peuple de Dieu, cela nous aide à nous rappeler que tout ce qui vient de l'Égypte est souvent douteux pour nous autres chrétiens et à éviter. Des érudits ont calculé les mots ou les phrases qui divergeaient entre le texte reçu en grec et les versions minoritaires, et ils ont trouvé que dans les évangiles seulement, le Codex Vaticanus est différent du texte reçu. À quel degré? Je m'explique. Il omet au moins 2877 mots. En d'autres termes, dans le Codex Vaticanus, il y a 2877 mots qui se trouvent dans l'original, et ils s'en sont débarrassés. Il ajoute 536 mots. Ce Codex Vaticanus. Il substitue 935 mots. Et il transpose 2098 mots. Et juste question des évangiles. Et il modifie 1132 mots. Faisant ainsi un total de 7578 divergences. Seulement dans les évangiles. Mais le Codex Sinaiticus est encore pire car ses divergences sont égales à près de 9000, rien que dans les évangiles. Votre épée est-elle aiguisée? Quelle épée avez-vous? Incidemment, il y a eu des découvertes de Bibles en syriaque, gallique et provençal, notamment la Bible de Peshitto, qui est datée du deuxième siècle de notre ère, et qui confirme le texte reçu. Cela veut dire que le texte reçu était bien le texte des vrais chrétiens. On peut rajouter à cela que c'était le texte qui était défendu par les Vaudois lors de leur persécution. C'était le texte que les protestants défendaient face à l'Église catholique romaine. Incidemment encore, il importe de noter que les deux personnes qui ont compilé le codex minoritaire en grec, sur lequel se basent la plupart de nos versions modernes, Brooke Foss Westcott et Fenton John Anthony Hort, Westcott et Hort pour simplifier, étaient tous deux des adeptes du spiritisme ou des sciences occultes. Westcott avait été le président d'une organisation chrétienne socialiste. Westcott et Hort appartenaient à divers groupes spiritistes qu'ils avaient fondés, et ils pratiquaient les sciences occultes pendant le temps où ils mettaient au point leurs textes en grec. Révélateur, n'est-ce pas? Ces sociétés furent fondées à Cambridge. Du nombre de ces associations occultes, il y avait la Society for Psychical Research, sur lequel s'appuie le mouvement moderne du New Age. Helena Blavatsky, la fondatrice du mouvement théosophique et New Age, louait également le travail de Westcott et Hort. Ils devinrent également pour une grande partie des hommes influents, occupant des places en politique, comme Arthur Balfour, futur premier ministre d'Angleterre. Et ces gens-là pratiquaient souvent le spiritisme, c'est-à-dire qu'ils entraient en contact et étaient influencés par des esprits déchus. Westcott et Hort rejetaient le texte byzantin et n'hésitaient pas à faire l'éloge du texte minoritaire alexandrin. Ils faisaient aussi souvent l'éloge des théologiens libéraux, des socialistes et autres radicaux tels que Coleridge ou Darwin. Westcott était postmillénariste et socialiste. Le postmillénarisme postule qu'il n'y aura pas de retour visible de Christ et que nous devons nous débrouiller sans l'aide de Dieu. Westcott avait créé la Christian Social Union, une organisation chrétienne socialiste qui a comme fondement notamment les écrits de Charles Kingsley, un autre anglican qui fut l'un des premiers à acclamer l'ouvrage de Charles Darwin sur l'évolution, l'origine des espèces. Darwin ajouta également à sa prochaine version de son livre les remarques de Charles Kingsley pour donner l'importance de l'implication de Charles Kingsley dans le darwinisme. Il existe actuellement d'assez nombreuses informations sur Westcott et Hort et sur les textes reçus et critiques sur Internet. Mais l'un des sites que j'ai trouvé le plus utile est o-logos.com. Si vous souhaitez faire de plus amples recherches en ce domaine, c'est un site qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de bonnes informations. Et vous pouvez aussi faire de plus amples recherches en tapant, si vous avez l'Internet, « Bible française »,« Meilleure Bible française » par exemple, ou « Texte reçu » ou « Texte majoritaire »,« Erasme de Rotterdam » ou « Westcott et Hort ». Westcott, c'est W-E-S-C-O-T et Hort, c'est H-O-R-T. Mais soyez prudents. Ayez un esprit critique et vérifiez bien vos sources. Il y a souvent des informations utiles dans ces sites, mais leurs auteurs ne croient pas, entre autres, au jour saint et pensent généralement que la vraie Église de Dieu se compose de tous les chrétiens du monde, etc. Dans mon message d'aujourd'hui, je voudrais surtout vous montrer un certain nombre de passages des Écritures où les traductions modernes ont supprimé des mots, ou en ont substitué, ou en ont ajouté, contrairement à l'avertissement solennel de notre Sauveur et Maître dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose ou y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. De nombreux traducteurs de nos versions modernes ont fait précisément cela. Excusez-moi. Je voudrais maintenant consacrer le restant de ce message à comparer avec vous plusieurs passages du texte reçu à la plupart de nos versions second. La plupart d'entre vous, vous avez cette version second. Vérifiez donc avec moi, nous allons vérifier ensemble ce que dit le texte reçu et ce qui est écrit dans nos versions second. Et cela varie. J'ai fait l'expérience récemment avec nos frères et sœurs en Martinique et c'était réellement très révélateur. Mais dans le petit groupe, il y avait des Bibles de différentes éditions. C'était généralement la seconde, mais où il y avait les éditions de 75, 79. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une version du 21e siècle aussi. Mais donc, vous allez vérifier, nous allons vérifier ensemble, parce qu'il n'y a rien de tel pour vous montrer que nos Bibles françaises, et plus spécialement la seconde, n'est pas toujours fidèle. Alors, nous allons faire cela, nous allons premièrement, nous reporter à Matthieu chapitre 1 et le verset 25. Matthieu chapitre 1 et le verset 25. Et nous allons voir un certain nombre de passages. Alors, Matthieu chapitre 1, verset 25. Et ce que je vais faire, je vais vous citer la version Martin, parce que la version Martin est une bonne version qui se base sur le texte reçu. Son français est un peu vieillot quelquefois, mais à nouveau, c'était une bonne Bible qui était basée sur le texte que nous voudrions avoir. C'est cela, une bonne épée, bien aiguisée, qui comporte les écrits que Dieu veut que nous ayons. Et ensuite, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a dans la Bible seconde, dans une Bible seconde que j'ai, moi, et vous pouvez faire la différence entre les deux. Matthieu chapitre 1, verset 25, il est écrit ceci. Dans la version Martin, texte reçu, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Donc, il y a ici, premier-né, mais qu'est-il écrit dans la version seconde de 1910 et les autres versions après? Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque? Alors, à nouveau, dans certaines de vos versions, il y aura par exemple entre crochets, premier-né. Mais pourquoi mettre ça entre crochets? Ça donne l'impression que ça ne fait pas partie de l'original, alors que cela faisait partie de l'original. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé premier-né? Ben, vous devez vous en douter, parce que premier-né, ça implique automatiquement que Christ était le premier-né de Marie et qu'il y a eu d'autres enfants, et c'est ce que la Bible indique effectivement. C'est que Christ a eu des frères et des sœurs. Or, vous avez une grande église qui refuse d'admettre ces choses, qui dit que c'était des cousins, alors que dans le texte grec, il s'agit bien de frères et sœurs. Alors, vous voyez pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, le motiver à enlever ces deux mots, premier-né. Qu'en est-il dans votre Bible? Cela peut varier. Nous allons voir un certain nombre de passages. Matthieu 5, 22, Matthieu chapitre 5 et le verset 22 maintenant. Alors, dans la version Martin, Matthieu 5, 22, il faut quand même que je vous donne le temps de tourner les pages, Matthieu chapitre 5 et le verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. » Et celui qui dira à son frère « Raca » sera punissable par le conseil, et celui qui lui dira « Fou » sera punissable par la gienne du feu. Alors, c'est ce que dit le texte reçu. Maintenant, dans ma Bible, second, voici ce qui est écrit. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la gienne. » Nous voyons donc qu'il manque, dans cette édition, sans cause. Sans cause. Sans cause, c'est une notion importante. Dieu a placé ces deux petits mots ici pour une raison bien précise. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé cela? C'est important, n'est-ce pas? Alors, dans l'original, il y avait « Quiconque se met en colère sans cause contre son frère, ils se sont débarrassés de cela. » La plupart de nos Bibles modernes se sont débarrassées de ces deux mots « sans cause ». Bon, Matthieu chapitre 5, verset 32, nous sommes dans Matthieu, nous allons voir un certain nombre de versets dans Matthieu. Matthieu chapitre 5 et le verset 32. Alors, dans la Bible Martin, où le texte reçu, il est écrit, « Mais moi je vous dis que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il l'a fait devenir adultère, et quiconque se mariera à la femme répudiée commet un adultère. » Avez-vous remarqué la différence ici à nouveau? Louis II, qu'est-ce que Louis II nous dit? « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Pourquoi avoir changé adultère pour infidélité? C'est moins fort, n'est-ce pas? C'est moins fort. Ils ont changé cela. Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9 et le verset 13. Matthieu, chapitre 9, et le verset 13. Il est écrit dans ce passage, Matthieu 9, 13, « Mais allez, apprenez ce que veulent dire ces paroles. Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Ça, c'est le texte reçu. Je ne suis pas venu appelés à la repentance les justes, mais les pécheurs. Que lisons-nous dans la plupart de nos versions second? Nous lisons ceci. « Allez et prenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ils se sont débarrassés de « à la repentance ». Ce qui est important. Dieu veut que nous nous repentions. Voyez, cet aspect important a été éliminé. Intéressant, n'est-ce pas? On voit un peu la mentalité. Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu chapitre 18 et le verset 15. Que lit-on dans le texte reçu? Dans des versions comme Osterwald. Osterwald est une très bonne version. Je l'utilise encore assez souvent. Et quand nous voyons des différences dans les traductions et dans nos textes, quand nous voyons des différences, comme vous avez remarqué, probablement, souvent nous disons dans la version Osterwald, par exemple. Version Martin, nous allons probablement l'utiliser un peu plus maintenant. C'est un peu vieillot, le français est un peu vieillot, mais c'est plus correct. C'est basé sur le texte reçu. Alors, Osterwald et Martin sont deux très bonnes versions françaises. Si vous avez une Bible seconde, gardez-la. Mais il est toujours bon, à nouveau, que vous vérifiez avec d'autres versions. Et la plupart d'entre nous, aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons des programmes qui nous permettent de voir plusieurs versions, donc de pouvoir comparer. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous comparons. Rien de tel que de citer ces versets pour voir entre nous quelles sont les différences, n'est-ce pas? Alors dans Matthieu 18, 15, dans le texte reçu, comme dans Martin par exemple, il est écrit ceci. « Que si ton frère a péché contre toi, va reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Bon, reportons-nous maintenant à nos versions secondes. Nos versions secondes, si ton frère a péché, va et reprends-le contre toi, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé contre toi? Si ton frère a péché contre toi, à nouveau, ça c'est important. Alors, ce qui est écrit dans la version seconde n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui manque, il y a un aspect qui manque là. Vous voyez? Matthieu 19, 17. Matthieu, chapitre 19, et le verset 17. Matthieu, chapitre 19, et le verset 17. Dans le texte reçu, ou majoritaire, il est écrit ceci, ou dans la version Martin, par exemple, il est écrit ceci. Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu est le seul être qui soit bon. » Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Que lisons-nous dans la seconde? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors, voyez, il manque donc dans la seconde, Dieu est le seul être qui soit bon. Dieu est le seul être qui soit bon, ou alors ça a été changé en fonction de la version que vous avez, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Il manque quelque chose. Il y a eu une modification qui a été faite. Pourquoi? Matthieu chapitre 20, verset 16. Matthieu chapitre 20 et le verset 16. Dans le texte reçu, ou la Bible Martin, par exemple, et aujourd'hui j'utilise que la Bible Martin, j'aurais pu en utiliser d'autres, mais quoique nous n'avons pas énormément de choix, effectivement, mais... aujourd'hui, pour ce sermon, pour ce message, j'utilise la Bible Martin et la Bible Second. Dans la Bible Martin, il est écrit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ça, c'est le texte reçu, le texte majoritaire, le bon texte. « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Lit-on tout simplement dans la seconde, dans la plupart de nos secondes. Où est passé le petit morceau de phrase, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Volatilisé. Matthieu chapitre 25, verset 13, Matthieu chapitre 25 et le verset 13. Matthieu chapitre 25 et le verset 13. Voyez donc à ce stade qu'il importe que notre épée spirituelle soit bien aiguisée. Et notre épée spirituelle, en quelque sorte, c'est, pourrait-on dire, une combinaison de plusieurs Bibles, mais surtout la Bible le plus originale possible, ou celle qui se base le plus possible sur les originaux. À nouveau, nous ne vous demandons pas de changer vos Bibles ou de les jeter à la poubelle. Si vous avez une seconde, eh bien, conservez cette Bible seconde. Mais, ayez une autre version, ayez au moins la possibilité de vérifier, parce qu'il manque des choses dans la Bible second. La Bible second, à nouveau, n'est pas parfaite. Matthieu chapitre 25, verset 13, Matthieu 25 et le verset 13, dans le texte reçu, il est écrit ceci, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » Bon, que lit-on dans la plupart de nos versions second? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ah, Ils se sont débarrassés ici, dans la plupart des versions, de « en laquelle le Fils de l'homme viendra ». C'est un élément important, très important. Ils s'en sont débarrassés. Marc chapitre 2 et le verset 17. Marc chapitre 2 et le verset 17. Nous lisons ceci dans le texte reçu, dans le texte majoritaire. « Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Voyez, le français est un peu vieillot, hein, mais qu'à cela ne tienne, il est mieux d'avoir un français qui soit un peu vieillot, mais qui soit correct, qui soit juste. Mais que dit la version second? Portons-nous maintenant à une des seconds. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Avez-vous noté ce qui manque ici? Appeler à la repentance. À la repentance est un élément clé dans ce verset. Christ a dit qu'il est venu nous appeler pour que nous nous repentions, élément qui est laissé de côté dans la plupart de nos versions modernes. Marc chapitre 6, verset 11. Marc chapitre 6 et le verset 11. Voici ce que nous lisons dans le texte reçu. Dans le texte reçu, il est écrit « Et tous ceux qui ne vous recevront point et ne vous écouteront point, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous le dis, que ceux de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. » Intéressant que cette dernière phrase dans ma version second et dans plusieurs éditions que j'ai a simplement disparu. Alors vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mots qui ont été enlevés de la plupart de nos versions second. Dans la version du 21e siècle, je pense que cette phrase est là, mais entrecrochée. À nouveau, c'est malhonnête parce que ça donne l'impression que cela ne fait pas partie de l'original. Mais dans la plupart de nos versions, 75-79 éditions, ce passage n'est pas écrit. On peut lire simplement « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Et ces 24 mots que je viens de citer ici ne font pas partie de ce texte. Ils ont été enlevés. Marc chapitre 9, verset 29. Marc chapitre 9 et le verset 29. Marc 9 et 29. Texte reçu, majoritaire. Et il leur répondit, cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et par le jeûne. Et par le jeûne. Dans nos versions second, la plupart, il leur dit « cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». Intéressant qu'ils se sont débarrassés de cet élément sur le jeûne. Intéressant, important et malhonnête, n'est-ce pas? Ok. Je ne vous dis que je ne choisis que plusieurs passages. Vous saviez combien j'en ai encore ici. Je n'en choisis que plusieurs. Je n'en choisis que plusieurs. Nous n'avons pas le temps d'en choisir plus, mais Luc 11 maintenant, Luc chapitre 11 et le verset 4. Luc chapitre 11 et le verset 4. Il est donc important que nous vérifions nos Bibles pour que nous soyons en quelque sorte aiguisés, que notre épée spirituelle soit le plus proche des originaux possible. Donc nous avons besoin de faire nos devoirs à la maison, en quelque sorte, de consulter plusieurs versions, n'est-ce pas, pour pouvoir comparer et savoir quelquefois qu'est-ce qui manque dans certaines versions. Dans Luc chapitre 11, verset 4, il est écrit ceci, « Dans le texte reçu ou majoritaire, et pardonne-nous nos péchés, car nous quittons aussi les dettes à tous ceux, nous quittons aussi les dettes à tous ceux qui nous doivent. Vous voyez, c'est un peu vieillot comme français, mais le sens est là, et nous comprenons très bien ce qu'il veut dire, et il ne nous induit point en tentation, mais délivre-nous du mal. Version second, nos versions à nous, la plupart du temps, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et il ne nous induit pas en tentation. Cette notion « mais délivre-nous du mal » a été éliminée, le plus souvent dans la version second. Jean chapitre 3, verset 18, Jean chapitre 3 et le verset 18. Pensez qu'il serait utile pour vous de faire des travaux pratiques en quelque sorte et de vérifier un passage ou une version avec une autre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Jean chapitre 3 et le verset 18. On peut lire dans le texte reçu ce qui suit. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. Que lit-on dans la seconde ? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il y a une différence entre jugé et condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé à nouveau, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voyez la différence ? Notez-vous la différence ? Jean chapitre 4, verset 42. Jean chapitre 4 et le verset 42. Texte reçu, majoritaire, et il disait à la femme, « Ce n'est plus pour ta parole que nous croyons, car nous-mêmes l'avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Version second, la plupart de nos versions, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Se sont débarrassés de véritablement le Christ. Cela n'a pas été repris dans la version second. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Acte chapitre 23 et le verset 9. Acte 23 et le verset 9. Acte chapitre 23. Et le verset 9, texte majoritaire, texte reçu, « Et il se fit un grand cri. Alors les scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant, « Nous ne trouvons qu'un mal en cet homme, si, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, ne combattons point contre Dieu. » Version second. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. La notion « ne combattons point contre Dieu » a été ôtée. Vous savez, si vous calculez le nombre de mots déjà que nous avons vus qui ont été enlevés, il y en a déjà pas mal, n'est-ce pas? Romains chapitre 1. Et le verset 16, Romains chapitre 1 et le verset 16. Romains chapitre 1 et le verset 16. Texte reçu ou majoritaire, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Que lit-on dans la seconde ? Que lit-on dans la version seconde ? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, quiconque a été ajouté. Et puis, la notion, l'évangile de Christ a été ôtée dans la version seconde. Il a été ôté. Je dis la version seconde, mais la plupart de nos versions modernes également. Il ne faut pas trop taper sur la seconde cette fois-ci, mais c'est pour bien nous montrer qu'il y a des mots qui manquent, n'est-ce pas? Mais à nouveau, la plupart des versions modernes qui se basent sur le texte minoritaire ou critique n'ont pas ces mots que nous voyons, qui sont dans l'original. Romains chapitre 3, verset 22. Romains chapitre 3 et le verset 22. On peut lire dans le texte reçu. ceci, la justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence vu que tous ont péché et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans le texte reçu. Que lit-on dans la seconde ? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé « et sur tous ceux qui croient » une fois ? Cela a été ôté. Romains chapitre 3, verset 25. Romains 3, 25. Et à nouveau, ça va varier probablement un peu en fonction de l'édition que vous avez. Hein, si vous avez une seconde, la version de 75 ou celle de 79 ou la version de 1910, ça peut varier un peu. À nouveau, ils ont changé avec ces versions. Mais essentiellement, et ce que nous étudions aujourd'hui avec la version seconde, c'est ce qui se passe avec les versions modernes. Donc, ce n'est pas juste seconde, mais seconde est la Bible que nous utilisons le plus souvent. Donc, c'est pour cela que je l'ai choisi aujourd'hui. Alors, Romains chapitre 3, verset 25, il est écrit ceci dans le texte reçu, « Lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu. » Avez-vous noté « par la foi en son sang et rémission des péchés » Qu'est-ce que nous trouvons dans la seconde et dans les Bibles modernes ? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, etc., etc. Vous voyez la différence entre les deux ? Vous pouvez à nouveau comparer entre ce que vous avez, votre version, et le texte reçu. Prenons Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Et dans le texte reçu, ou majoritaire, nous lisons ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Que lisons-nous dans la seconde et dans la plupart de nos versions modernes ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair mais selon l'esprit, a été ôté. Ce n'est pas dans la plupart de nos versions modernes. Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8 et le verset 18. Romains chapitre 8 et le verset 18. Texte reçu. Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont point comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Que dit la seconde ? Que disent les versions modernes la plupart du temps ? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une différence entre « en » et « pour ». Il y a une assez grande différence de sens, n'est-ce pas ? Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Texte reçu, majoritaire. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Que lisons-nous dans la seconde et dans la plupart de nos versions modernes ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous la différence déjà ? Et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Il y a une différence entre discerner et éprouver aussi. Il y a une différence entre entendement et intelligence. Romains chapitre 14, verset 9. Romains chapitre 14 et le verset 9. Dans le texte reçu, majoritaire, il est écrit ceci, ou dans la Martin, par exemple, « Car c'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a repris une nouvelle vie, afin qu'il domine tant sur les morts que sur les vivants. » que lit-on dans la plupart de nos versions modernes, comme dans la seconde, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. La notion de résurrection ici est ôtée, est éliminée. Romains chapitre 15, verset 29. Romains chapitre 15 et le verset 29. Dans le texte reçu, il est écrit ceci. Et je sais que quand j'irai vers vous, j'irai avec une abondance de bénédictions de l'évangile de Christ. Que disent nos versions modernes, comme la seconde? Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine conviction de Christ que j'irai. Où est passée bénédiction de l'évangile? De l'évangile. Ôté. Ils s'en sont débarrassés. Quelques autres passages. Si vous saviez combien d'autres passages j'ai ici, mais ce sera peut-être pour une autre fois. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. 1 Corinthiens 14 et le verset 28. Texte reçu, majoritaire. Que s'il n'y a point d'interprète, que cet homme se taise dans l'Église et qu'il parle à soi-même et à Dieu. On lit dans nos versions modernes, notamment la seconde, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Cet homme, qu'ils sont ôtés. Galates chapitre 3, verset 1. Galates chapitre 3 et le verset 1. Galates 3, 1. Il est écrit ceci dans le texte reçu. Ô Galates insensés, qu'est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant dépeint devant les yeux et comme crucifié entre vous? Vous avez probablement déjà noté la différence. Il y a quelques mots qui manquent ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque 8 mots. Dans nos versions modernes. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? On s'est débarrassé de que vous n'obéissiez point à la vérité. Aspect très important, qui a été ôté par les traducteurs de nos nations, de nos versions modernes. Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15, puisque nous sommes dans Galates. Galates 6, 15. Dans le texte majoritaire ou reçu, il est écrit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni le prépuce n'ont aucune efficace, mais la nouvelle créature. » Dans nos versions modernes, il est écrit ceci « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Nos versions modernes se sont débarrassées de « en Jésus-Christ ».« En Jésus-Christ ». Qui est un élément très important. Nous allons citer un autre passage, un dernier passage, avant de conclure. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Éphésiens chapitre 3 et le verset 9. Éphésiens chapitre 3 et le verset 9. Dans le texte reçu, majoritaire, il est écrit ceci, « Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Nos versions modernes ont ceci, « De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » On s'est débarrassé de « devant tous » et on s'est débarrassé de « par Jésus-Christ », des éléments qui sont importants. J'espère vous avoir démontré, par ces quelques exemples, que beaucoup de modifications ont été effectuées dans les Bibles modernes, dans nos Bibles modernes, contrairement à l'avertissement que Christ nous a donné dans Apocalypse 22, 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Il nous importe de nous assurer que notre épée spirituelle est la meilleure que nous puissions nous procurer, et de toujours vérifier que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit Christ. Assurons-nous que notre épée spirituelle est bien aiguisée. Au revoir, mes amis. Bon courage et à bientôt.